Alors, vous voyez, le problème, ça coïncide bien avec la fin du trimestre. C'est, après une espèce de tableau que nous avons fait du savoir, selon Foucault, nous étions comme poussés, je veux dire, c'était pas par volonté, c'était pas par... Nous étions réellement poussés vers un second domaine, celui du savoir, celui du pouvoir. Et je veux dire, j'ai le sentiment que c'est arrivé ainsi pour Foucault. C'est-à-dire qu'il a réellement commencé par une épistémologie, ou par les sept constitutions d'une doctrine du savoir. Et que c'est cette doctrine du savoir qu'il a littéralement poussé vers la découverte d'un nouveau domaine qui allait être celui du pouvoir. Si bien que ce qu'on cherchait déjà la dernière fois, c'était l'espèce de transition qui nous fait passer du savoir au pouvoir. Et on avait procédé par une série de remarques, en effet, de remarques les plus concrètes possibles. Et on se proposait pour aujourd'hui d'étudier de plus près un texte, parce que c'est un texte mystique, de l'archéologie du savoir. En effet, comprenez, on a toujours été très embarrassé pour répondre à la question, si cette question était posée, jamais. Mais enfin, donnez-nous un exemple d'énoncé. Au moins, on sait maintenant pourquoi on était embarrassé, si bien qu'on ne l'est plus. C'est que c'est très très difficile de donner un exemple d'énoncé. En effet, les énoncés se distinguent des mots, des phrases et des propositions. Mais en même temps, ils leur sont complètement immanents. Je ne peux pas donner un exemple d'énoncé qui ne passe par ce que l'énoncé n'est pas, à savoir des mots, des phrases et des propositions. Si bien que chaque fois qu'on me réclame un exemple d'énoncé, ben, je donnerai une phrase ou une proposition. Et je pourrais seulement expliquer en quoi l'énoncé ne se confond pas avec la phrase même. Mais comme il n'existe pas hors de la phrase, il m'est très difficile de donner un exemple. Si bien que, à la lettre, si quelqu'un maintenait son exigence, un exemple d'énoncé, Foucault répondrait comme il le fait, et c'est là-dessus que devrait porter notre séance aujourd'hui, il répondrait A-Z-E-R-T, AZERT. Alors évidemment, les souvenirs nous viennent. On se dit, ah ben oui, les stoïciens, par exemple, avaient un mot secret. Ce mot secret, c'était blituris. C'était le grand mot magique. Blituri chez les stoïciens désigne le mot qui n'a pas de sens. Alors, est-ce que AZERT est en ce sens l'énoncé secret ? A-Z-E-R-T. C'est pour ça que le groupe de pages de l'archéologie 1914 que je vous demandais de lire si possible, il faudrait le suivre de très près. Je retiens dès la page 109 une première remarque de Foucault. Il s'agit de montrer qu'un énoncé n'implique pas forcément une grammaire ou une syntaxe. Et pour le montrer, il nous dit « Une équation est un énoncé. » Et il ajoute « Une courbe est un énoncé. » un graphique, une courbe de croissance, une pyramide d'âge, un nuage de répartition forme des énoncés. Page 109. Une équation, une courbe sont des énoncés. Est-ce qu'on peut dire l'inverse? On a envie de dire l'inverse. En tout cas, j'ai tout de suite envie de dire l'inverse. Mais à quelles conditions est-ce légitime? Tout énoncé est une courbe. Ce serait important pour nous, ce serait intéressant, très intéressant pour nous, parce que ce serait une manière d'insister sur l'irréductibilité de l'énoncé à la phrase. Peut-être que la courbe énoncée impliquerait une phrase, mais ce ne serait pas la phrase même, ce serait la courbe de la phrase. Mais qu'est-ce que c'est la courbe d'une phrase? Bon, laissons. Hein. 113, 114, il nous en dit un peu plus. Car il nous dit ce qui est énoncé et ce qui n'est pas énoncé, dans des exemples aussi insolites que les précédents. Une courbe est un énoncé. Là, il nous en dit un peu plus parce qu'il nous dit, je dis, ce qui n'est pas énoncé et ce qui est énoncé. Qu'est-ce qui n'est pas énoncé? Des lettres que vous prenez au hasard. À la lettre, une poignée de lettres. Une poignée de lettres n'est pas un énoncé. Des lettres que vous prenez au hasard, à la lettre, ce n'est pas un énoncé. Vous voyez ce jeu intelligent, le Scrabble. Hein? Vous prenez une poignée de lettres. Vous avez dans la main une poignée de lettres. Ce n'est pas un énoncé. Bon. En revanche, vous recopiez les lettres sur une feuille de papier, ces lettres que vous avez tirées au hasard. C'est un énoncé. Vous les recopiez, c'est un énoncé. On faut aller lentement parce que c'est une drôle de chose qu'il est en train de nous dire. Si je recopie cette poignée de lettres, si je reproduis ces lettres sur une feuille de papier, c'est un énoncé. Énoncé de quoi? Eh bien, énoncé d'une série de lettres n'ayant d'autre loi que le hasard. Il faut bien retenir ça. Énoncé d'une série de lettres n'ayant pas d'autre loi que le hasard. Mais ma poignée de lettres, ce n'est pas un énoncé. Ou bien, vous pouvez voir que l'exemple est équivalent, des lettres sur le clavier d'une machine à écrire. A, Z, E, R, T. Ce sont les premières lettres sur le clavier des machines à écrire françaises. Ces lettres sur le clavier d'une machine à écrire, ce n'est pas un énoncé. Si je les recopie ou si je les dis, c'est un énoncé. Énoncé de quoi? C'est l'énoncé de l'ordre des lettres sur une machine française. Voilà. Du coup, les questions abondent et on croit avoir compris. Mais avant même de croire avoir compris, il faut voir comment se termine. Vous voyez, vous retenez bien, hein? Ma poignée de lettres n'est pas un énoncé. Si je le recopie sur une feuille de papier, c'est un énoncé. Si je le recopie sur une feuille de papier ou si je l'ai dit, c'est un énoncé. Pas ZERT sur le clavier, ce n'est pas un énoncé. Si je dis AZERT ou si je le recopie sur une feuille de papier, c'est un énoncé. Il conclut, page 117. Une série de signes. En effet, les lettres du Scrabble ou les lettres sur le clavier, c'est déjà une série de signes. Ce n'est pas encore un énoncé. Eh bien, une série de signes deviendra énoncé à condition qu'elle ait à autre chose, mis entre guillemets, à condition qu'elle ait avec autre chose, entre parenthèses, autre chose qui peut lui être étrangement semblable et quasi identique, comme dans l'exemple choisi, autre chose qui peut lui être... c'est très très curieux, et ça c'est du pur, pur Foucault. Autre chose qui peut lui être étrangement semblable et quasi identique. Donc une série de signes deviendra énoncée à condition qu'elle ait, avec autre chose, qui peut lui être étrangement semblable et quasi identique comme dans l'exemple choisi, un rapport spécifique qui la concerne elle-même. Voyez, une série de signes, AZERT, devient énoncée à condition qu'elle ait avec autre chose. Qu'est-ce que c'est que l'autre chose? Les mêmes signes sur le clavier, qui eux ne sont pas un énoncé. Et pourtant, l'énoncé est étrangement semblable et quasi identique. Pourquoi je dis c'est du pur Foucault? C'est du pur Foucault parce que s'il y a quelque chose, un problème comme ça, un problème fluent, un problème amusant, un problème fascinant qui l'a hanté, chacun a ses problèmes fascinants. Chez Foucault, c'est le problème du double. Qu'est-ce que c'est qu'un double? Et on ne pourra pas s'en sortir de tout notre essai d'explication de Foucault si on ne traverse pas cette épreuve qui est l'épreuve du double, le problème du double. Et ça, ça le hante. Ça l'a hanté du début à la fin. Qu'est-ce que c'est que le double? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un double? Alors, autre chose étrangement semblable et pourtant autre, étrangement semblable et quasi identique. C'est la première fois pour nous, nous voyons surgir l'existence du double chez Foucault. L'énoncé est le double de quelque chose qui lui est étrangement semblable et quasi identique. AZERT. AZERT énoncé est le double de AZERT sur le clavier. Et pourtant, l'un n'est pas un énoncé, l'autre est un énoncé. Bon. Alors on se dit, oh bon, c'est, on a compris, il dit banalité. Qu'est-ce que ce serait dire une banalité? Ce serait par exemple dire, pour qu'il y ait énoncé, eh ben, il faut dire ou écrire. Alors, les lettres sur le clavier, ce n'est pas un énoncé, mais si je dis les lettres sur le clavier ou si je les écris sur une feuille de papier, à ce moment-là, j'énonce. Énoncer impliquerait dire ou écrire. En d'autres termes, ce serait dire quelque chose qui existe. En d'autres termes, ce serait en quelque sorte, pour qu'il y ait énoncé, il faut qu'il y ait une copie. Il faut que je recopie la succession des lettres telle qu'elle est sur le clavier ou il faut que je recopie les lettres que j'ai prises au hasard. À ce moment-là, il y aurait énoncé. C'est stupide. Pourquoi c'est stupide? Ne serait-ce que parce que le clavier lui-même sur lequel les lettres ne sont pas un énoncé, le clavier lui-même, est une copie. Chaque machine française copie le modèle français de la machine. Donc, si la copie était condition de l'énonciation, il faudrait dire que les lettres sur le clavier sont déjà des énoncés. Donc, ça ne va pas. Est-ce que ce serait mieux de dire « Ah ben oui, on a compris. Pour qu'il y ait énoncé, il faut qu'il y ait désignation. » Et lorsque je recopie les lettres sur le clavier, en effet, là j'ai un énoncé parce que j'ai une instance qui désigne quelque chose. Et qu'est-ce que c'est ce quelque chose? Eh bien, c'est une instance qui désigne l'autre chose, étrangement semblable et quasi identique, à savoir les lettres sur le clavier. Donc je dirais à ce moment-là, oui, il y a énoncé quand il y a quelque chose qui désigne. Ou, ce qui revient au même de ce point de vue, il y a énoncé lorsqu'il y a quelque chose qui signifie. Et je dirais, le désigner, AZERT, sur le clavier, c'est pas un énoncé. En revanche, quand je recopie sur le papier, vous voyez, je ne définis plus l'énoncé par la condition de recopier, je le définis par la condition de désigner, parce que la seconde série désigne la première, étrangement semblable et quasi identique. Ce serait idiot aussi, pourquoi? Ce ne serait pas idiot à une condition, ce serait que j'arrive à définir la désignation ou la signification sans rien présupposer de l'énoncé. Peut-être que c'est possible, j'en sais rien. Peut-être que c'est possible, j'en sais rien. Car, dans les définitions classiques de la désignation et de la signification, l'énoncé est présupposé. Donc je ne peux pas définir l'énoncé par la désignation, ni par la signification. Pour la simple raison que ce sont des dimensions de l'énoncé qui présupposent l'énoncé lui-même. Ce qui désigne, c'est un énoncé lui-même. Ce qui désigne, c'est un énoncé lui-même. Ce qui désigne, c'est un énoncé lui-même. Ma seconde réponse, lorsque je croyais avoir trop vite compris, ben, elle s'écroule. On me dira, eh bien, il faut définir l'énoncé par ce que toutes les autres dimensions présupposent, aussi bien la désignation que la signification, à savoir, il faut définir l'énoncé comme chaîne signifiante. Parce que là, la chaîne signifiante, elle ne présuppose pas l'énoncé, elle est constituante, ou elle peut passer pour constituante. Ça ne va pas non plus cette fois-ci. Car si je définis l'énoncé par la chaîne signifiante, qu'est-ce qui m'empêchera de dire que la chaîne signifiante est déjà sur le clavier? Et me voilà revenu à zéro. Et ce retour à zéro, ça revient à dire, je me prends la tête entre les mains et je dis, mais qu'est-ce que c'est cette autre chose? Si l'énoncé est fondamentalement en rapport avec autre chose d'étrangement semblable et quasi identique, cette autre chose n'est ni un désigné, ni un signifié, ni un signifiant. Qu'est-ce que ça peut être? On repart à zéro. Alors, ce long chemin, ben, ça nous a servi à quoi? Ben, ça nous a servi à faire des impasses. On sait que ça, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et puis, surgit un mot. Un mot que auquel Foucault attache beaucoup d'importance et que, très bizarrement, il commente assez peu. Dès le début de l'archéologie du savoir, il suffit de regarder la table des matières, on voit que, en gros, puisque c'est le titre d'une partie et pas d'un chapitre, que la première grande partie s'appelle les régularités discursives. les régularités discursives. Et puis, on voit que dans la dernière partie, un chapitre, le chapitre 2 de la quatrième partie, s'appelle « L'original et le régulier ». Et quel est le thème de ce chapitre sur l'original et le régulier? Ça consiste à nous dire, en gros, vous savez, quand vous voulez définir, il ne dit pas que c'est sans importance, mais quand vous voulez définir un énoncé, il y a quelque chose qui est sans importance, c'est le critère de l'original et du banal. Quand vous voulez savoir, là aussi, il ne faut pas aller trop vite, parce qu'il ne faut pas en conclure que pour Foucault, une proposition mille fois dite ou un énoncé mille fois dit est un énoncé nouveau. Non, il dit que le critère de nouveauté ou de banalité n'est pas constitutif de l'énoncé lui-même. Un énoncé banal n'est pas moins un énoncé qu'un énoncé original. En d'autres termes, banal, original, n'est pas une distinction pertinente quand on veut savoir ce qu'est un énoncé. Ça nous importe. Pourquoi? Parce qu'on a vu que l'énoncé se rapportait à « on parle ». Ben, le « on », il n'est pas plus banal qu'original. Le « on » n'est pas le « on » de la banalité. Banal ou original n'est pas pertinent par rapport au « on parle » comme condition de toute énonciation. Bien. Alors, l'énoncé n'est ni banal ni original. Il est régulier. Régulier, ça veut dire quoi? Qu'il obéit à des règles. Quelles sont ces règles? On a vu que c'est des règles très particulières, puisque quand on a commenté la nature de l'énoncé, on éprouvait le besoin, j'éprouvais le besoin d'emprunter à Leboeuf le terme de règles facultatives, par différence avec les règles obligatoires. C'est donc de drôles de règles. Toute règle n'est pas règle d'énonciation. Sans doute l'énoncé implique-t-il des règles très particulières, celles-là même qu'on a appelées règles facultatives. Reste que l'énoncé est une régularité. Bon, ça reviendrait à dire, très bien, c'est une régularité, pas n'importe quelle régularité. Dès lors, il faut croire que, lorsque je disais règle facultative, ça impliquait pour nous que ces règles-là se définissent par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose. Et quoi? Qui ne serait pas la même chose que les règles obligatoires. En d'autres termes, par rapport à quoi les règles énonciatives se définissent-elles? Par rapport à quoi? Ni l'original, ni le banal. Par rapport à quoi les règles proprement énonciatives se définissent-elles? Là, on va avancer, peut-être, peut-être, peut-être. Je dis, les règles énonciatives sont des règles qui se définissent par rapport à des singularités. C'est par rapport à des singularités. J'ai l'air de m'étonner d'avoir fait un si grand progrès. Et oui, parce que est-ce que ce serait pas une manière déjà de confirmer la distinction des règles facultatives et des règles obligatoires? Les règles facultatives concernent des singularités, qu'elle régularise. Tandis que les règles obligatoires concernent toujours de l'universel. Ce serait commode, ce serait une rude confirmation, mais on laisse ça. Les règles énonciatives concerneraient des singularités. Ce qui est ennuyeux, c'est, je le dis tout de suite, c'est que Foucault emploie assez peu le mot singularité. Et pourtant, il l'emploie. Par exemple, dans l'ordre du discours, vous trouvez cette phrase, le logos élève les singularités au concept, au niveau du concept. Et comprenez, même en coupant du contexte, c'est une critique du logos qu'il fait. Parce que le concept, c'est l'universel. Le logos élève les singularités au concept, c'est-à-dire il les transforme en universalité. Puis par-ci, par-là, Foucault emploie le mot singulier, singularité. Mais en même temps, on ne peut pas dire qu'il en fasse une affaire de terminologie. Moi, je crois que c'est encore plus beau. Vous savez, chez les philosophes, il y a toujours, au niveau terminologique, il y a toujours deux sortes de termes. Il y a des termes auxquels ils attachent une importance explicite. Par exemple, énoncer pour Foucault. Là, il vous dit explicitement, attention, ce que j'entends par énoncer, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'on entend par phrase proposition. Et puis, il y a des termes que le philosophe n'éprouve pas le besoin dont il se sert et dont il n'éprouve pas le besoin de vous dire attention. Et il le glisse au coin d'une phrase, comme ça. C'est à vous de vous débrouiller. Il faut à ce moment-là, c'est des concepts non plus explicites de ce philosophe, c'est des concepts implicites. Ça n'est plus des concepts regard, c'est des concepts clin d'œil ou coup d'œil. Je reviens à mon thème. Voilà. Premier point. J'ai fait une émission de singularité. Trois singularités. Voilà. Ou, comme on dit en mathématiques, j'ai marqué trois points singuliers. Ces points singuliers, tels quels, bon, j'ai tracé là sur un plan trois points singuliers. Une de leurs singularités, c'est qu'ils ne sont pas sur la même ligne. J'aurais pu faire une autre émission de singularité. J'aurais fait... C'était une toute autre émission de singularité. Là, j'ai fait mon émission de singularité, celle-ci. Et c'est tout. Vous remarquerez que mes points singuliers sont indéterminé. Ah, un effort en plus. Je vais faire tout autre chose. Je fais ça. qu'est-ce que j'ai fait? C'est une seconde figure. Pour parler tout simplement, je dirais, j'ai uni les trois points singuliers. J'ai tracé trois lignes. Bien. On va très lentement, parce que je crois que c'est plein de pièges, tout ça. Plus vous croirez d'avoir compris tout de suite, moins vous aurez compris. En même temps, si vous comprenez plus, l'instant. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Plutôt que j'ai réuni mes points singuliers, je dis j'ai régularisé. J'ai régularisé. En effet, chacune des lignes est une ligne de points réguliers. Une ligne de points réguliers unit une singularité à une autre, ou si vous préférez, j'introduis un autre mot parce qu'il va nous être très utile. Une ligne régulière, une ligne de points réguliers, ou si vous préférez, alors je continue les mots, une série de points réguliers va du voisinage. Là, c'est une notion, en effet. Il n'y a pas besoin de savoir les mathématiques pour savoir qu'elle a une grande importance mathématique. Du voisinage d'un point singulier au voisinage d'un autre point singulier. Voilà ma ligne de régulier. Apparaît l'idée de série. Donc, la régularité, c'est une série de points qui va du voisinage d'une singularité au voisinage d'une autre singularité. Bien. Est-ce que je peux concevoir à ce niveau, tout à l'heure, dans ma première figure, mes points singuliers étaient indéterminés. Là, quand j'ai régularisé, ils reçoivent une détermination, à savoir sommet d'un triangle. Mais en tant que point indéterminé, tout à l'heure, ils existaient en tant que singularité. Simplement, ils étaient indéterminés. J'avais trois points singuliers. Est-ce que c'est nécessaire que la régularisation soit triangulaire? Je dirais que la régularisation triangulaire, c'est une régularité. C'est-à-dire, c'est une forme sous laquelle j'ai régularisé mes points singuliers. Est-ce que c'est la seule? Ou bien, continuons à essayer de fixer les mots qui terminologiquement vont être très très importants. Est-ce qu'une autre série était possible que la série triangle? Avec les mêmes points singuliers? Oui, une autre série était possible, on en voit tout de suite une.